Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52, depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Podcast Factory.
Bonjour à vous, nous revoilà pour ce nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. 2 fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et comme toujours, je suis avec mes 2 camarades de lutte. Salut Elsa.
Salut.
Salut Margaïde.
Hello.
Dans ce 9e épisode, on va parler de sexisme en milieu engagé. Il n'y a jamais eu autant de femmes dans les assos, les collectifs, dans les partis politiques, les collectivités ou même à l'Assemblée nationale. Et c'est une excellente nouvelle. Nos voix et nos convictions sont de plus en plus et de mieux en mieux entendues. Mais on vit toujours en patriarchie, du coup ce serait beaucoup trop beau si c'était juste beau.
Ouais, dommage.
Mais puisqu'on est là pour parler de victoire et de bonnes nouvelles, on se délecte sans plus tarder de celle-ci. Depuis le 19 avril, Denis Baupin est officiellement en PLS.
Ouais, bam.
Si vous n'aviez pas suivi l'affaire Baupin, c'est un ancien député qui était accusé de harcèlement et d'agression sexuelle par 13 femmes au total, dont 4 ont porté plainte contre lui. Et au moment de son procès, le tribunal a classé ses plaintes sans suite parce que les faits étaient prescrits, donc trop anciens pour être jugés. Du coup, puisque la justice semble le protéger, Denis se sent pousser des ailes et décide d'attaquer ses accusatrices en diffamation. Le mec est de type persistant dans l'indécence, quoi. C'est champion du monde. Ce second procès a donc lieu le 19 avril et le tribunal l'a non seulement refoulé, mais il l'a aussi condamné pour procédure abusive.
Boum, pam.
C'est un bon retour de boomerang comme je les aime, même si le montant qu'il doit leur verser est dérisoire, hein, 500 euros par personne, c'est symbolique. Mais ce qu'on retiendra, c'est que pour une fois, la tentative d'intimidation n'a pas marché, les accusés se sont battus comme des reines et ont obtenu juste une décision de justice de bon sens. Donc bravo à toutes ces femmes pour cette victoire qui doit tellement les soulager et qui, on l'espère, en calmera quelques-uns.
Ça serait bien, ouais.
Voilà donc pour commencer un joli exemple de warrior en politique, et dans cet épisode, on va vous en présenter plein. Elles ont trouvé leur place en milieu militant, elles ont claqué les portes de certains groupes, elles ont mené de front engagement et grossesse, elles ont refoulé les camarades racistes, et comme d'habitude, elles partagent avec nous leur victoire. Attention donc, cet épisode, il crache des flammes.
Oh yeah.
Et comme d'hab, juste avant d'écouter leur témoignage, on vous présente le feedback d'une auditrice, et cette fois c'est Marga qui nous parle.
Oui, alors Naki, elle nous a écrit un chouette article sur Yes, sur son blog, et ça nous a beaucoup, beaucoup touchés. Alors voilà ce qu'elle écrit. Ce qui est génial, c'est qu'en écoutant ces femmes se défendre, on est gagné par un sentiment de satisfaction immédiat, car leur victoire devient la nôtre. Et oui, la sororité gagne de l'espace chaque jour. Merci à toi, Naki. Et si vous voulez aller lire son blog, eh bien, rendez-vous sur nakict.wordpress.com, Naki, nakyct.wordpress, avec 2s.com.
Bon, bah, sans plus tarder, Elsa, tu nous présentes la première warrior.
Yes, alors c'est une sacrée warrior. Brigitte, elle est élue Europe Écologie Les Verts à Gardanne dans les Bouches-du-Rhône et elle fait de la politique depuis 40 ans. Donc je vous laisse imaginer le nombre de situations sexistes qu'elle a pu vivre. Là, elle nous raconte en fait une petite solution qu'elle a trouvée à l'un des nombreux problèmes et l'un des nombreux cas sexistes qu'elle a pu vivre.
Lors des dernières municipales, c'est-à-dire en 2014, j'en avais assez de toujours entendre C'est court lorsque je prenais la parole. Alors j'ai décidé de me saisir de l'humour pour contrer ce machisme. Je n'ai rien dit, mais un soir de réunion interne, j'ai enregistré toutes les prises de parole masculines et lorsque le temps fut venu que je prenne la parole, j'ai enregistré bien entendu aussi mon intervention. Une fois celle-ci terminée, j'ai dit, ben voilà, écoutez, vous m'avez demandé de faire court, j'ai donc fait 2 minutes et 03. Maintenant, voici, à chacun d'entre vous, vos temps de parole. Bien entendu, ça allait bien plus de 2 minutes jusqu'à plus de 5 minutes. Donc, silence. Et depuis, je n'ai plus jamais entendu, lorsque je demandais à prendre la parole, le fameux sésame, c'est court. Ceci étant, je pense que pour la campagne 2020, je serai obligée de refaire ce même petit stratagème de façon à pouvoir être tranquille.
J'adore.
Les petites astuces de Brigitte.
Voilà. Non, mais j'hallucine, fais court. Bon, tu peux abréger s'il te plaît hein.
Ouais, tu dis quoi.
Ouais, en anticipation, ils se disent que ce qu'elle va dire, c'est pas important, c'est relou, c'est... Mais la tu résumes, hein. Fais vite.
Mais c'est le problème de la prise de parole des femmes politiques en général. En fait, ouais. C'est comme partout. Hein, c'est comme dans tous les milieux. La parole des femmes est toujours dévalorisée. Mmh. On leur demande soit de faire court, soit on dit qu'elles sont pas suffisamment expertes,
elles sont trop dans l'émotion.
Voilà, elles parlent jamais assez bien. Ou quand elles parlent, on les déstabilise. Hein, on se rappelle du fameux épisode de la robe de Cécile Duflot. Ouais. Si vous vous en rappelez pas, je vous invite à aller chercher ça sur YouTube. Donc Cécile Duflot qui arrive en robe devant l'Assemblée nationale pour défendre un projet de Grand Paris et qui se retrouve moquée et qui du coup perd, forcément elle en perd ses moyens quoi.
C'est horrible.
Et du coup prendre la parole en politique c'est quelque chose de pas facile, donc voilà la solution de Brigitte c'en est une. Et ça peut aussi, il faut penser aussi à des stratagèmes comme ce chronomètre pour pouvoir laisser la place aux femmes pour parler dans les réunions. Alors ça peut se faire dans toutes les réunions politiques, que ce soit des partis, des syndicats, des associations. Donc j'ai listé quand même pas mal de trucs dont des militants m'ont parlé. Alors la première chose toute simple, c'est d'instaurer un tour de parole, mm-hmm. que ce soit pas la foire d'empoigne, qui crie le plus fort. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a une feuille de papier, un stylo, et qui note au fur et à mesure les personnes qui lèvent la main, mm-hmm. et les inscrit selon l'ordre qu'elles demandent la parole, et leur donne la parole, distribue la parole en fonction de cette liste. Donc ça, c'est le plus basique. Après, donc, le chronomètre, comme faisait Brigitte, on peut dire chacun parle 2 minutes, et on chronomètre, et au bout de 2 minutes, on s'arrête. Il y a aussi d'autres solutions, comme par exemple se dire qu'on ne peut pas reprendre la parole tant que tout le monde ne s'est pas exprimé.
Ça, c'est bien.
Voilà.
Elsa, tu nous présentes une seconde warrior ?
Oui, alors, on va parler de Khadija. Donc, Khadija, elle a commencé très très tôt la politique, puisque dès ses 17 ans, elle a milité avec la LCR à Cherbourg, en Normandie. Puis, elle a bougé en région parisienne, à Ivry. Et là, elle a fréquenté un milieu un peu plus anarchiste, autonome. Un squat dans lequel vivait un groupe de militants qui étaient majoritairement des hommes blancs de classe moyenne, voire classe moyenne supérieure, mais bon, qui vivaient d'une façon qui ne laisse pas vraiment imaginer qu'ils viennent de ce type de classe-là. En tant que femme issue de l'immigration et d'un milieu populaire, elle était donc en décalage très fort avec ces personnes par rapport à son expérience dans la vie en général. Elle nous décrit donc une ambiance qui était vraiment raciste et misogyne et comment elle a fini par quitter cet environnement qui s'est avéré hostile et toxique pour elle. Donc du coup, on va écouter son témoignage et puis on en parlera un petit peu après.
Et en fait, ça a été un enchaînement d'énormément de choses où j'étais perçue comme la personne qui faisait des choses qui étaient de l'ordre du domestique. Donc à des événements, par exemple, j'avais pas des places de réflexion ou des places d'organisation, si ce n'est de l'organisation, des trucs sales et chiants que personne ne fait, quoi. Et en fait, quand on analyse à l'échelle de la société, les trucs sales et chiants que font les gens dans la société, c'est délaissé à des personnes de couleur. Je pense par exemple aux personnes qui nettoient les rues, aux personnes qui sont éboueurs, aux personnes qui gardent les enfants, les nounous racisés, les éboueurs, tous les tafs précaires comme ça. À une échelle plus microscopique, moi, c'était mon cas également dans ce milieu-là. Et en fait, ça s'est traduit par plein de de violence de ce type jusqu'au moment où, en fait, moi, ma victoire, ça a été de partir, de me rendre compte, de dire les choses, de les embrouiller et puis, en fait, de partir et de retrouver un autre cercle de personnes avec lesquelles j'étais mieux. Donc, je suis très, très, très fière d'être partie, de m'être mise à l'abri. Et j'invite les personnes en situation de minorité à faire de même, à se rendre compte. Et quand, en fait, on se rend compte qu'on est dans des situations malaisantes, en fait, c'est hautement politique et c'est et du racisme et du sexisme quand on est une femme cisgenre. Il faut pas se dire tiens c'est bizarre là et puis passer à autre chose. Faut se dire tiens là c'est bizarre, mais en fait c'est politique ce truc bizarre et dérangeant.
Encore une fois, c'est une super victoire de prendre soin de soi, mais on constate que la meilleure solution c'est de s'extraire de cet ouais, espace quoi,
pour se protéger. Petit point vocabulaire, peut-être, parce qu'elle emploie pas mal de mots qui vont sans doute revenir un peu plus tard dans l'épisode. Elle parle du terme de racisé.
C'est des personnes, en fait, qui sont, dont l'appartenance raciale supposée, on va se dire, lui, il est noir, elle est arabe, etc., etc. En fait, c'est le regard, justement, du dominant qui les racialise, en fait. Ouais. C'est parce qu'évidemment, on sait que biologiquement, la race n'existe pas, mais socialement, elle existe et elle a des effets très, très concrets, en fait. Et voilà, et du coup, comme je disais au début, je trouve ça très, très intéressant que dans des milieux qui se prétendent à la pointe du progressisme, et notamment sur la lutte contre les discriminations de manière générale, qu'elles soient liées à la classe sociale ou à l'appartenance raciale supposée des individus, on observe une telle présence de ces discriminations. Moi, c'est pas la première fois que j'entends des histoires comme ça. Je connais des personnes à qui c'est arrivé pendant des années et qui se sont fait fortement manipuler en fait par des groupes d'hommes blancs, d'extrême gauche qui voulaient vraiment les dominer, les utiliser pour s'incruster parfois aussi dans des territoires, etc. Ils avaient besoin de relais, en fait.
Ou les hypersexualiser aussi.
Ou les exotiser, les hypersexualiser, évidemment, ça c'est le bonus. Mmh. Mais je pense que c'est important d'en parler parce qu'on a l'impression un peu que plus on va à gauche, plus les gens sont gentils et progressistes. Faux. C'est carrément faux. Khadija, elle dit même que les anarchistes étaient pire que les gens de la LCR, en fait. Donc faut pas avoir d'illusions sur ces milieux-là. Et effectivement, comme elle dit, si vous vous sentez pas respecté, n'hésitez pas à partir. Ouais. Je précise juste que Khadija, elle était dans l'épisode 4 du podcast Extimité. On avait invité Douce du podcast Extimité à Marseille une fois pour un live. C'est un podcast qu'on aime beaucoup. Donc, n'hésitez pas à écouter ou à réécouter cet épisode parce qu'en fait, là, vous allez entendre plus en détail son expérience,
toute
son histoire. Parce que là, on n'a pas eu le temps de développer, mais elle a beaucoup de choses à raconter. Mmh. Et par ailleurs, elle fait de la broderie militante. Donc, vous pouvez trouver ses œuvres sur Instagram, sur son compte Ifilo Studio. Je mettrai le lien dans la description. Yes. Et allez voir, c'est assez rigolo. Ça peut faire des cadeaux très, très cool.
Yes. On le disait il y a deux secondes, c'est encore une femme qui s'extrait finalement d'un milieu qui n'est pas conçu pour elle, qui n'est pas safe pour elle. Mais de manière générale, de toute façon, il y a très peu de femmes qui sont là et qui perdurent dans les milieux militants et politiques.
Si on regarde les nombres de femmes qui sont maires, qui sont députées, qui sont à la tête d'organisations, de délégations, de collectivités, de régions, c'est un peu la catastrophe. En France, par exemple, 16% des maires seulement sont des femmes. Ouais. Donc c'est vraiment ridicule.
Et c'est déjà un chiffre record en plus.
Ouais. encore une fois, pour un pays qui se dit progressiste et féministe, c'est quand même une grosse blague.
Le pays des droits de l'homme, en oubliant la femme.
Ouais. Oui, voilà.
Mais pas de la femme.
Et sur la parité en politique, ce qui peut paraître très surprenant, je sais qu'il y a des gens qui ont des réactions très violentes à cette information, ça n'est pas la France, ça n'est pas un pays occidental qui est en tête, mais le Rwanda, avec 39% de ministres féminins, mais aussi 51 femmes sur 80 élues dans sa chambre basse, alors que la France n'arrive qu'à la 47e place, derrière le Soudan, qui est 45e, d'accord ?
Donc,
quand on vous dit « Non, mais en France, c'est bon, quoi, vous avez le droit de vote, il n'y a plus de problème, je ne sais pas pourquoi vous vous plaignez. » LOL, d'accord ? Donc, sinon... Il y a une anecdote qui est assez drôle que je voulais raconter sur la mairie de Sarcelles.
Ah mais oui, c'était incroyable.
Donc en fait, il y a eu une élection à la mairie il y a quelques années. Et en fait, il y a deux élus, UDI et La République En Marche, qui ont saisi la justice parce que la mairie comptait 8 adjointes pour 6 adjoints. Donc ils ont dit non mais c'est scandaleux, normalement ça doit être la parité, là il y a plus de femmes que d'hommes, ok. Donc voilà, ils ont saisi la justice, une bonne utilisation de la justice. Hein,
un combat d'avant-garde.
Voilà, pour dénoncer le non-respect des règles de parité. Donc bah, bravo à eux, moi je trouve que c'est vraiment merveilleux.
Non mais moi je les invite à rester cohérents et du coup à dénoncer absolument toutes les assemblées dans lesquelles il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, soyons cohérents.
Oui, oui, bah oui.
Allons-y aussi, pour une fois qu'il y avait un endroit où il y avait un peu plus de femmes.
C'est énorme.
On sent que ça crispe. Mais je confirme, hein, oui effectivement c'est crispant quand il y a beaucoup plus d'une personne, un type de personne que l'autre.
On a peur de se faire arnaquer. Ouais.
C'est ça. Bon, du coup, je vous présente notre warrior suivante. Elle s'appelle Marie. En 2012, elle était candidate aux législatives dans les quartiers nord de Marseille. Elle était donc en pleine campagne hyper intense au moment des faits qu'elle va nous raconter. On l'écoute.
La législative était en juin et moi, j'étais enceinte depuis mars. Et je l'avais dit à personne parce que c'est les 3 premiers mois. Et y compris, j'étais très, très, très impliquée sur la campagne présidentielle et puis après la campagne législative. Et donc, je me suis concentrée sur ça, du coup, ça se voyait pas que j'étais enceinte. Et puis, une semaine après les résultats du premier tour, ça a été clair pour tout le monde que j'étais enceinte. Donc, je l'ai dit, j'en ai parlé. Et un super militant du collectif, là, me répond « T'as fini ta carrière politique ?» Alors, j'avais jamais envisagé déjà la politique comme une carrière. Pour moi, c'était un engagement militant. Donc, c'est quelque chose qui m'est plutôt viscéralement attachée, la question de mon engagement au quotidien. Puis cette phrase qui était quand même forte, c'est-à-dire que j'allais avoir un enfant et donc je ne pourrais plus jamais faire de la politique et m'impliquer en dehors de la famille, quoi, de la maison. En gros, j'étais condamnée à m'occuper de mes enfants. Ça, c'est pas vraiment tout à fait passé comme ça. En 2014, j'étais candidate à la municipale, donc j'ai tenu encore 2 ans à contredire les pronostics, à continuer à mon engagement militant, hein. J'ai refait une campagne très dure, très compliquée, avec un engagement de 24 heures sur 24. Alors ouais, c'est une victoire surtout de pouvoir continuer à mener sa vie comme on l'aime et puis de faire entendre que la femme n'est pas qu'un objet maternel.
Voilà, donc encore une fois, c'est un sujet sur lequel on perd à tous les coups, parce que quels que soient nos choix, que ce soit de poursuivre sa carrière ou de la mettre en pause, on trouvera moyen de transformer ça en reproche ou en injonction. Et alors les exemples dans les médias sont nombreux, je pense à Najat Vallaud-Belkacem, qu'on avait qualifiée de mauvaise mère parce qu'elle n'emmenait pas ses enfants à l'école elle-même, ou à Ramayad qui se voit reprocher de ne pas parler de sa grossesse, puis qui se voit reprocher d'en parler. Et le dernier exemple aussi que j'ai en tête, c'est l'ancienne ministre Axel Le Maire qui, quand elle a annoncé sa grossesse, s'est simultanément vue obligée d'annoncer que non, elle ne quittera pas le gouvernement. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de demander à un homme qui vient d'avoir un enfant si du coup il va démissionner de son poste, mais bon.
Il y a aussi l'anecdote Ségolène Royal, qui va s'occuper des enfants.
C'est exaspérant, ils ont vraiment un souci avec ça, quoi. Donc, encore une fois, on en revient, c'est un peu le fil rouge de tous nos épisodes, hein, au respect des choix des femmes. Hein. On n'est jamais vraiment capable de faire nos choix nous-mêmes.
Et puis même, a priori, un enfant, souvent, il y a quand même 2 personnes.
C'est ça, quid du papa, systématiquement. On s'imagine que forcément... ça
ou
va,
de la deuxième maman, d'ailleurs.
Oui, ou même de l'équipe, en fait, du reste de la famille, etc. Enfin... voilà, il peut se passer, il peut y avoir plein de configurations différentes qui sont évidemment très rarement envisagées. Et pour finir sur les groupes militants, je me fais la petite promo de notre épisode, puisqu'on s'en fout, c'est notre podcast, on a le droit. Donc je précise qu'aujourd'hui, Marie, elle est active au sein du collectif 5 novembre. C'est un collectif d'habitantes et d'habitants de Noailles. Donc c'est dans ce quartier à Marseille que des immeubles s'étaient effondrés en novembre dernier, tuant 8 personnes. Donc ce collectif, il vise à soutenir les proches des victimes, les sinistrés, les évacués. Il réclame des logements, secoue les autorités publiques. Bref, on félicite Marie pour sa victoire personnelle et on vous invite à soutenir le collectif du 5 novembre dont elle fait partie.
Ouais, je confirme, je connais bien Marie et c'est une sacrée warrior. Bravo c'est pour clair. Tous tes engagements.
Bravo. Bien, ben Marga, garde le fil.
Allez, c'est parti.
M.
Ouais, le prochain témoignage, donc c'est celui de M. Alors, elle n'a pas voulu donner son nom entier, ce qu'on respecte. Donc, on rappelle que si vous voulez témoigner anonymement, c'est possible. On peut même modifier le son de votre voix si vous le souhaitez. Donc, M, elle est militante dans un collectif populaire féministe à Saint-Denis, donc en Seine-Saint-Denis. Mais à l'époque des faits, elle militait dans un collectif de région parisienne contre les violences policières. Et c'est dans ce collectif, au sein de ce collectif, qu'elle s'est faite agresser physiquement et verbalement à la sortie d'une réunion par un camarade. Alors pour, après ça, elle a, donc elle a eu un traumatisme hein, dont elle a mis plusieurs semaines à se remettre.
Je m'étonne.
Au début, donc son agresseur a été écarté du collectif, mais elle a eu la mauvaise surprise de le voir revenir quelques temps plus tard, sans qu'elle ait été prévenue, ce qui a été très difficile à vivre pour elle. Donc elle en a parlé, elle s'en est ouverte aux membres du groupe. Mais on lui a opposé que ben, son agresseur, finalement, il avait été bien sympa, il s'est excusé, il avait reconnu les faits. Donc,
faut t'avouer, pardonner.
Voilà,
ça
exactement.
Ne fonctionne jamais, ça.
Donc l'incident était clos. Certains militants lui ont même reproché de ne pas avoir porté plainte.
Bah, voyons.
Je rappelle qu'on parle d'un collectif qui se bat contre les violences policières,
ouais,
qui crie en manif « Tout le monde déteste la police ». Je vous laisse apprécier la cohérence. Voilà.
Alors, je rigole, mais c'est nerveux, je précise.
Donc voilà, donc elle a été vraiment déçue, dégoûtée de par la réaction de beaucoup de ses camarades. Voilà, donc elle a décidé de quitter le collectif. Elle a arrêté de militer pendant un an. Et voilà, je vous laisse écouter son histoire.
Moi, en fait, je suis d'origine algérienne, je suis musulmane. J'ai grandi dans un quartier populaire, j'ai fait des études. Et mon agresseur également, il est fils d'immigrés et il vient d'un quartier, sauf qu'on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas le même statut social. Et il est une figure de ça, dans le monde politique, dans le milieu, dans le petit microcosme qui est celui-ci. Et on m'a fait ce chantage à la division de la lutte. On m'a demandé de me taire pour la bonne tenue des luttes, qui avait des priorités en fait. On lui a trouvé des circonstances et il s'est trouvé des excuses parce qu'il venait de quartier. Mais en fait, ça veut dire quoi, ça, de nos quartiers? Ça veut dire qu'on n'est pas prêt à évoluer et qu'on est condamné à être médiocre, qu'on est condamné à être sexiste, qu'on est condamné à être violent. Et ça veut dire quoi, des mecs de quartier? Ça veut dire qu'ils peuvent pas évoluer, qu'ils sont trop bêtes, que c'est pas pour eux. La lutte pour l'égalité, c'est pour les autres, c'est pour les blancs. Que nous, les meufs de quartier ou que les femmes racisées, on n'a pas le droit à cet épanouissement-là et qu'en plus de devoir gérer la violence de l'État, la violence au travail, on doit gérer aussi la violence intracommunautaire. Quand on la dénonce, on n'a pas de soutien. On a des luttes à mener ensemble, antiracistes, anti-islamophobie. On a tout ça à mener ensemble. Mais cette lutte-là, elle ne doit pas se faire sur notre dignité de femme. Quand j'accepte pas d'être discriminée en fonction de mon origine ou en fonction de mes croyances, j'accepte pas d'être violentée en fonction de mon genre. Et que je l'accepte de personne, en fait. Alors, ça a été très difficile. Mais j'ai fini par claquer la porte d'un milieu qui ne me voulait pas du bien. Qui n'était pas là pour mon épanouissement. Qui ne m'aurait pas permis de vivre ma vie et de construire ma vie, d'avoir mon indépendance. On m'aurait sacrifié. Et on m'aurait probablement agressé une deuxième fois. Et on m'aurait demandé de me taire une deuxième fois. Et ma victoire, ça a été maintenant, c'est maintenant de me construire dans des environnements sains. La force de militer, je l'ai trouvée en intégrant un collectif où il n'y avait pas d'hommes. Et donc, où j'étais pas susceptible de me refaire agresser et de voir répéter cette histoire, qui avait déjà pris en compte cette question-là par le passé des violences dans le milieu militant. Et c'est vraiment des espaces où, ouais, je me sens aussi de porter des questions qu'on portait pas avant, ou que je portais pas avant. La question du féminisme de quartier, je militais pas sur cette question-là auparavant. Et en fait, ça m'a un peu, ça m'a redirigée vers des choses qui me ressemblent plus, cette agression finalement.
Elle soulève tout un tas de points vraiment très 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 intéressants. Et comment elle a réussi à transformer en fait cette agression en quelque chose de positif pour elle. Voilà, donc je précise quand même que c'est soutenu par ce collectif non mixte qu'elle a réussi en fait à se réapproprier son histoire, à la raconter comme elle avait envie de le raconter. Et elle a fini aussi par signaler ce militant à d'autres organisations. Donc je sais qu'il y a certes, elle m'a raconté que certaines organisations qui avaient prévu d'inviter ce gars-là ont annulé leur invitation, donc ça permet l'échange d'informations entre collectifs, c'est aussi important pour
c'est des sacrées victoires en plus pour elle, enfin la reconnaissance qu'on arrête de remettre en question son témoignage etc, et que ce mec là arrête d'être validé dans tous les sens, c'est une sacrée victoire.
Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que, voilà, pour parler de la non-mixité dont elle parle, c'est vrai qu'en soi, on peut se dire, ouais, militer en non-mixité, en quoi c'est une victoire. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, on voudrait pouvoir militer en mixité, sauf qu'en fait, il faut juste se rendre à l'évidence que des fois, c'est pas possible. Et ça permet quand même de ces groupes non-mixtes entre femmes, d'avoir un espace safe, un espace dans lequel on se sente à l'aise, qui permet de, déjà, de, comme elle le dit, de pas se faire agresser, de parler librement.
Les espaces non mixtes, c'est super utile. Il s'agit pas d'installer une ségrégation dans l'ensemble de la société, c'est juste des espaces et des temps pour être déjà dans un endroit safe dans lequel effectivement on n'a pas de risque d'agression, pouvoir prendre la parole absolument librement puisqu'on parle à des gens qui partagent ses convictions, voire qui sont elles aussi ou ont été victimes des mêmes problématiques. Ça permet d'analyser ces problématiques-là à travers le regard des personnes qui le subissent, de créer son agenda politique et de l'autogérer. Et puis, évidemment, ça crée un espace d'écoute et de bienveillance sur des sujets qui sont méga complexes. Donc, c'est absolument utile. Ça ne met en danger absolument personne. Je ne vois pas pourquoi ça crispe autant en France, alors que franchement, on a mieux à faire que se foutre sur la gueule pour des réunions.
Parce que quand les dominés commencent à s'organiser, c'est le début de la fin.
C'est ça. ça fait flipper tout le monde. Donc voilà, je trouve ça hyper important. Du coup, je remercie Em d'avoir soulevé ce sujet-là parce que il faut en parler et il faut tous se détendre là-dessus si des personnes ont besoin de militer en non-mixité, mais tant mieux, et il faut que ça existe aussi, quoi. Il y a plein de façons de militer, il n'y en a pas une qui est plus valide que les autres, quoi.
Et autre chose que M soulève dans son témoignage, qui était très très long, elle m'a envoyé 20 minutes de témoignage, ce qu'elle regrette surtout, au-delà des problèmes personnels et des déceptions qu'elle a eues vis-à-vis de certaines personnes, certains camarades avec qui elle se pensait être amie, c'est l'incapacité à gérer collectivement, en groupe, ce problème d'agression. Ouais. Et elle regrette qu'il n'y ait pas eu de protocole, en fait, de traitement d'une agression sexiste dans cette organisation, et que la question ne se soit pas posée et que personne n'ait voulu se remettre en cause en se disant ouais, c'est un problème, il faut qu'on le traite. Donc ce qu'elle dit, c'est que voilà, il faut y penser avant, pas attendre l'agression pour se demander qu'est-ce qu'on fait en cas d'agression. C'est l'anticiper. Et avec toutes les affaires qui sortent en ce moment, de plus en plus de grosses organisations comme des syndicats étudiants, des partis politiques se dotent de ce type d'outils. J'ai listé quelques pistes qui peuvent servir, si vous avez des collectifs militants qu'on peut mettre en place avant justement ces violences sexistes. Donc déjà, de base, refuser tous les actes violents, toutes les agressions. Ouais. Voilà, que ce soit déjà un principe de base, déjà, ça
et l'affirmer fermement.
Et l'affirmer, voilà, que c'est pas acceptable. Vous pouvez aussi créer un comité dédié qui réfléchit à ces questions-là, qui pense féminisme, qui pense gestion des agressions, regrouper un petit groupe de personnes, évidemment des personnes safe, si possible, pas des agresseurs potentiels. Créer un espace où les militantes peuvent venir soit parler, soit par exemple une adresse mail où les militantes peuvent signaler des événements ou des personnes ressources. Vous pouvez aussi former quelques référents dans votre groupe qui soient sensibilisés à ces questions et qui sachent comment réagir, comment écouter les victimes. Vous pouvez faire appel à une autre association. Il y a plein d'associations qui s'occupent de ces questions-là pour former vos militants et vos référents. Vous pouvez aussi créer des groupes de parole non mixtes, on vient d'en parler, pourquoi pas une fois par mois, réunir toutes les femmes de votre groupe militant pour justement débriefer comment ça se passe, alors pas seulement au niveau des agressions, mais aussi au niveau de la prise de parole, au niveau de la répartition des tâches. Tous ces thèmes-là peuvent être abordés dans un groupe non mixte. En cas d'agression, évidemment, comme d'habitude, c'est le conseil qu'on donne toujours, écouter la victime. La croire, la soutenir, et quelles que soient ses décisions, la soutenir si elle veut porter plainte, si elle veut aller en justice, la soutenir, l'accompagner à la police, l'accompagner aux audiences, éventuellement l'aider si votre organisation en a les moyens, lui filer un coup de main financier pour qu'elle puisse payer ses avocats, si elle a envie d'aller dans ce voie-là.
Et si elle ne veut pas.
Et si elle ne veut pas, évidemment, parce que ça peut être parce qu'on n'a pas envie, parce qu'il faut le savoir, par exemple, dans le cas des viols, seulement une plainte sur 10 pour viol arrive à une condamnation. C'est pas que 9 viols sur 10 ne sont pas avérés, c'est juste que C'est juste que...
On a une justice patriarcale.
Voilà, où forcément la parole de la victime va être mise en doute, où il va falloir être vraiment très très forte aussi. Enfin, faut avoir envie de se prendre tout ça dans la gueule, quoi. De toujours raconter la même histoire, de se faire mettre en accusation à chaque fois, et pourquoi, et dans quelle tenue tu étais, est-ce que t'étais pas un peu bourré, est-ce que tu l'as pas aguiché, machin. On n'a pas forcément envie de s'exposer à ça. Donc voilà, porter plainte, c'est pas forcément une option. On peut ne pas vouloir. Et on peut aussi avoir des femmes qui sont victimes d'agressions, mais qui le vivent bien, qui n'ont pas forcément besoin non plus de soutien psychologique. Hein. Ça arrive aussi, on en a parlé.
Qui le vivent pas mal. Peut-être
qu'ils le vivent, voilà. Bien, mais... Oui, exactement.
Qui ne sont pas traumatisés.
Qui sont pas traumatisés. On m'en a parlé, ça, de cas de femmes qui sont fait agresser, qui l'ont raconté à des caméras, en disant non, mais t'inquiète, je gère, tout va bien. Donc juste soutenir et respecter ses choix. Yes. Voilà, et surtout gérer collectivement, comme le dit M, c'est-à-dire gérer l'agresseur, éviter qu'il se retrouve en même temps que la victime dans des réunions ou dans des assemblées, ou qu'ils soient tous les deux à une tribune, parce que ça peut être très déstabilisant. Imaginez se retrouver avec son agresseur à devoir partager une tribune, l'horreur. Et on en revient encore à la parole des femmes et la déstabilisation des femmes. Et s'il faut, exclure l'agresseur, en fait. Enfin, je pense que déjà, commencer par le mettre à l'écart.
Ouais,
et si les faits sont graves, et en fonction de comment vous gérez ça dans votre collectif, s'il faut choisir entre la victime et l'agresseur...
Le choix est vite fait.
Le choix est vite fait. Parce qu'il n'a pas été le cas pour Khadija et pour M dans leurs organisations. Mais en fait, c'est ça qui est fou, quoi. C'est que, en fait, entre l'agresseur et la victime, en fait, on choisit l'agresseur.
Très souvent.
Voilà.
Je confirme. Bien, mais merci Marga pour tous ces conseils de comment gérer ces violences-là en milieu militant. À mon tour, je vais vous présenter la warrior suivante. Je crois que c'est la première fois qu'on donne le nom de famille d'une warrior, mais on vous présente Marie Leverne. En février 2016, elle était députée, membre de la commission du développement durable et de l'aménagement durable. Elle travaille à ce moment-là sur un texte sur la sécurité dans les transports qui traite notamment de terrorisme et de fraude. Et bref, elle a rencontré les principaux transporteurs. Elle a constaté que leur personnel n'était pas formé à détecter et à réagir face aux violences sexistes. Elle apprend même que ces actes ne sont en fait même pas répertoriés. Donc elle décide, avec d'autres députés, d'ajouter une partie supplémentaire à ce projet de loi qui comporte entre autres un article sur le harcèlement sexiste spécifiquement, qui est donc l'article 14. Et cet article, il va faire parler de lui, on l'écoute.
L'article 14 propose donc une formation obligatoire pour les agents de sécurité et il propose également de répertorier ces actes de harcèlement sexiste. Pour nous, cet article, c'était l'occasion de consacrer le harcèlement sexiste dans la loi pour lutter contre cette plaie et que nos actions survivent aux campagnes de sensibilisation. Le texte arrive donc au Sénat et en commission des lois. L'article 14 est retiré purement et simplement sous des prétextes qui nous semblent fallacieux, qui pour nous disqualifient le sujet. Il y a sur les réseaux sociaux un extraordinaire soutien. Les féministes se sont réellement saisies de ce sujet et que grâce à leur soutien, grâce à leur mobilisation, grâce à ce mouvement citoyen, le Sénat offre une deuxième chance à cet article. Il est visiblement très embarrassé et remet ça à une commission mixte paritaire. Cette commission mixte paritaire modifie la rédaction du texte, mais en substance, la loi prévoit un certain nombre d'obligations et surtout, dans la loi de sécurité dans les transports, est introduite la notion de harcèlement sexiste.
Voilà, bravo. Marie, elle parle beaucoup de la mobilisation et c'est vrai qu'elle a été énorme. J'y ai aussi participé via Paytachnek, mais je trouve qu'elle parle pas du tout du fait que c'est elle qui a défendu ce texte, qui a créé et défendu ce texte. Alors je me permets de le faire, c'est une super belle victoire collective, mais dans laquelle elle était quand même en première ligne. Donc elle précise dans son témoignage qu'elle a certes été très agréablement surprise par cette mobilisation spontanée, mais que du coup elle a aussi constaté que les pouvoirs politiques et que le Sénat notamment pouvaient s'opposer au progrès sur les sujets de violence sexiste. Et comme elle le dit, le Sénat peut carrément ajouter sa pierre à l'édifice de la dissimulation. Donc bon, c'est pas une surprise énorme, mais ça me donne envie de parler du collectif Chères Collaboratrices. C'est un collectif qui recueille depuis 2016 des témoignages de femmes qui sont victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Parce que non, il n'y a pas de milieu exemplaire. Le niveau d'études et le montant du salaire ne vaccinent pas contre le virus du sexisme.
Ah bon ?
Très, très loin de là. Donc, il y a quelques temps, les membres de Chères collaboratrices, elles ont dévoilé les résultats d'un questionnaire qu'elles ont envoyé à tous les salariés de l'Assemblée. 137 personnes ont répondu et la conclusion ne va malheureusement pas vous étonner. Une collaboratrice sur 5 a été victime d'une agression sexuelle. Une collaboratrice d'élu sur 5.
Wow.
Une collaboratrice sur 3 a été victime d'injures sexistes ou d'attitudes insistantes et gênantes. Mmh. Grosse ambiance. Donc, on connaît là du coup la proportion de femmes qui ont été victimes, mais la proportion d'agresseurs dans ce cas, s'il y a autant de victimes.
Ah non, commence pas parce que tu vas avoir des problèmes.
Des trucs mais je
ça,
cherche hein. Les problèmes, tout le monde le sait maintenant. S'il y a autant de victimes, c'est qu'il y a quand même pas mal de coupables parmi ceux qu'on nomme les élus.
Non, non, c'est un seul mec, tu vois, qui va te désagresser une par une.
C'est
tu
ça. Donc pourtant, voilà, l'info que j'ai apprise d'ailleurs, que dont j'étais même pas au courant, c'est qu'aucun d'entre eux n'a jamais été condamné. Aucun d'entre eux. Donc là, on parle des chiffres de ce qui se passe à l'heure actuelle, mais je vous laisse imaginer depuis tout le temps le nombre de victimes qu'il y a eu. Donc aucun d'entre eux n'a été condamné et leurs victimes, elles, finissent la plupart du temps par quitter leur poste. Mm-hmm. Non, on en revient toujours là, en fait.
Bah, voilà.
Donc le collectif Chères collaboratrices a fait publier ses résultats et le collectif demande donc la création d'une cellule d'écoute indépendante spécialisée sur ces problématiques, c'est un peu ce que tu évoquais tout à l'heure Marga, et le gel de la clause de loyauté, puisque pour l'instant une collaboratrice est liée en fait à son élu, donc en cas, elle demande à ce qu'en cas de dénonciation de fait de harcèlement, cette clause saute. C'est un vaste sujet.
Ouais.
Je les remercie pour leur mobilisation de tous les jours, de tous les instants, parce que on passe notre temps à attribuer le sexisme et les comportements comme ça aux gens de la rue, aux gens pauvres, etc. Alors qu'en fait, voilà, les hommes de pouvoir sont très loin d'être exemplaires, sont loin d'être exempts de ces comportements. Et il faut souvent remonter au créneau pour rappeler qu'en fait, absolument tous les types d'hommes sont concernés sans aucune exception.
Ce sont pas les pauvres qui ont créé le patriarcat, je crois.
Absolument pas. Il n'est pas non plus arrivé par bateau. Hein,
non.
Il faut le préciser.
Ouais, et si vous voulez en savoir plus sur le collectif Chères collaboratrices, moi j'ai écouté un podcast qui s'appelle Thelma et Louise, et où elles invitaient deux membres de Chères collaboratrices pour parler de sexisme en politique. Je mettrai le lien dans les références de l'épisode. Allez, on va terminer avec la dernière warrior, c'est Lison. Alors Lison, elle craint des gains, elle craint personne, comme on dit ici. Elle est marseillaise, elle va souvent en manif, et en ce moment, c'est vrai qu'on a le choix dans les manifs, entre les gilets jaunes, les manifs de soutien aux migrants, contre l'inaction du gouvernement en termes d'action contre le climat, contre le mal-logement, on en a parlé tout à l'heure.
Les Algériens aussi.
Voilà, les Algériens, les Algériennes. On a les Kurdes aussi à Marseille qui manifestent beaucoup toutes les semaines. Enfin bref, il y a mille raisons de battre le pavé en ce moment. Mais parfois, disons, elle a de mauvaises surprises quand elle entend des slogans ou quand elle lit les pancartes que tiennent certains manifestants.
On voit quelqu'un qui, cette fois-ci, avait indiqué « Macron, ta femme, je la prends, je la retourne et je l'encule ». Mais là, je me dis « c'est pas possible, quoi ». C'est pas possible que des gens avec qui j'ai envie de m'organiser politiquement puissent tenir ce genre de discours où, en fait, déjà, pour critiquer la politique de Macron, il est obligé de s'en prendre à sa femme. Il y a des choses bien plus intéressantes à dire sur Macron que le choix de la personne avec qui il veut partager sa vie, en fait. Voilà. À quel moment avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, ça l'humilie? Ou ça humilie la personne avec qui il est en couple? Alors, encore plus, parce que droit de propriété, attention. En plus, on a la dose d'homophobie qui est aussi particulièrement présente dans les manifestations, avec l'utilisation de la sodomie comme étant quelque chose de honteux, quoi. Alors là, voilà, on s'est dit, celui-là, on va aller lui parler, parce que c'est pas possible. Quoi. Du coup, on y va, et on se met à parler fort derrière lui, ça peut être une technique. Et il vient vers moi, en plus, et il dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes sur mon truc? Il y a un truc qui ne va pas. Et je dis, ok, s'il veut en parler, on y va, je vais lui expliquer exactement pourquoi ça ne va pas. Et pendant 20 minutes, pendant la manifestation, je lui dis tout ce que je viens de dire en tant que personne potentiellement concerné par ce genre de blague, potentiellement à qui on dit, toi, vas-y, toi, viens là, je te retourne. Enfin, ça me va pas. Et il me répond que c'est la première fois qu'on lui fait la remarque, que lui, il avait juste envie d'être drôle, qu'il n'y avait pas réfléchi.
Et alors, moi, quand même énervée, je dis, bah, en fait, c'est ton devoir d'y réfléchir. Au bout d'un moment, les slogans politiques sur les banderoles, les slogans qu'on crie en manif, et ce qu'on écrit sur ces affaires, en fait, on en est responsable, et donc on doit se poser la question. Et il dit, d'accord, très bien, ok, je vais y réfléchir, et je trouve que c'est intéressant, et il m'a remercié d'avoir pris le temps de lui dire, il m'a dit qu'il voulait être un allié, enfin... Et ça m'a complètement reboostée. Donc après, j'étais surfaite de reparler à tout le monde, d'aller à chaque fois reparler aux gens qui étaient là, alors, Macron, on t'encule, ou tous les slogans aussi qui sont uniquement masculins. Des fois, quand on prend le temps, et quand on a l'envie, quand on est plusieurs, quand on le dit, quand d'un seul coup, nous-mêmes, on se met à lancer des slogans, et bah, ça marche. Et c'est quand même une reprise de la rue et aussi de la problématisation politique qui est hyper forte. Et moi, je trouve ça génial.
Putain, mais ce slogan, c'est carrément une menace de viol, en fait.
Ben ouais.
Ouais, c'est ça.
Pour rire. Ah, c'est vrai que c'est super rigolo. On se fend la gueule.
En tout cas, bravo Lison d'avoir eu le courage pendant 20 minutes de faire de l'éducation populaire.
Putain, le mec part de tellement loin, je l'aurais même pas tenté, je crois. Je sais même pas par où commencer, tellement rien ne va dans sa pancarte.
Mais ouais, reprendre la rue par des slogans, par des slogans féministes, comme elle le dit, ça peut être ça peut être une bonne idée. Alors moi, j'ai emprunté un bouquin à la bibliothèque qui s'appelle 40 ans de slogans féministes. Je vous en ai relevé quelques-uns un peu pour finir en beauté. Alors déjà des slogans féminisés, alors on va voir si vous trouvez la référence. Nous ne sommes rien, soyons toutes.
Faut qu'on complète ?
Non. Nous ne sommes rien, soyons toutes.
Repris de l'international.
Ah, j'ai pas compris.
Nous ne sommes rien, soyons tout. Nous ne sommes rien, soyons toutes.
Ah, je maîtrise pas assez la référence.
On n'est pas assez communiste.
La culture, voilà, pas assez communiste. Ou première, deuxième, troisième génération, nous sommes toutes des filles d'immigrés.
Yes.
Voilà. Il y a aussi des slogans que vous avez peut-être entendus. Hein. Un homme sur deux est une femme.
Yes.
En référence au mot homme qui représente l'humanité.
Ouais, bah ouais, c'est ça.
Alors celui-là que j'adore. Alors c'était écrit sur une pancarte. Les petites filles sages vont au paradis. Les autres vont où elles veulent.
Ouais.
J'adore.
Bah, merci pour toutes ces refs. Et toutes ces blagues carambas.
Ouais, inventer des nouvelles blagues, franchement, qui ne sont pas oppressantes, ça serait cool.
Oui.
Qui ne sont pas Cro-Magnon. Franchement, ça commence à devenir fatigant. On va parler des Warriors du mois. Ce mois-ci, je pense qu'on peut rendre hommage aux femmes algériennes qui sont très, très, très déterminées dans la mobilisation qui a lieu. Donc, depuis le 22 février, il y a vraiment une révolution en Algérie. Hommes, femmes, enfants, vieux, tout le monde se réapproprie la rue. Des centaines de milliers de personnes qui sont dans les rues d'Alger et de toute l'Algérie, toutes les semaines, en mode gilet jaune version sans flashball. C'est vrai qu'il y a eu très peu de violences policières comparées au mouvement qu'il y a en France aujourd'hui, et ça c'est franchement c'est assez intéressant à observer. Et les femmes du mouvement donc sont super énervées, elles affirment vraiment leurs droits comme jamais. Depuis le début, elles s'impliquent autant que les hommes sur les réseaux sociaux et dans la rue, et elles n'ont pas l'intention de lâcher l'affaire. On peut en citer quelques-unes.
Oui, des noms.
Alors, bon, déjà, moi, je voudrais commencer par Jamila Bohired, qui est une figure de la révolution de 62 et qui revient
révolution
dans la rue.
Révolution de 62, qu'est-ce que c'est ?
Ah bah, quand l'Algérie a enfin pris son indépendance de l'oppresseur français. Et donc, voilà, c'était vraiment c'était une poseuse de bombes, en fait. D'ailleurs, Jacques Vergès, qui a fini par être son mari, l'a défendue parce qu'elle était condamnée à mort par la France. Donc voilà, donc cette femme est encore vivante et elle est dans la rue avec les plus jeunes. Et ça, je trouve que c'est beau. Enfin, ouais, symboliquement, c'est magnifique. Ensuite, vous avez Sonia Ghassemi, qui est une étudiante militante qui a été menacée de mort pour ses revendications quand même. Parce que malheureusement, bah, y a quand même des mecs que ça fait un peu bégayer, le fait que toutes ces femmes se mettent à se réapproprier l'espace public, etc. Et à dire, bon, à l'époque, vous nous avez aussi dit déjà, on verra plus tard pour votre mouvement des femmes. Hein. Donc cette fois-ci, non. C'est bon, on en a marre. Alors, il y a aussi Adila Bendimerad, qui est une actrice qui est très active dans les manifestations sur Internet et qui organise un forum citoyen sur les marches de l'Opéra d'Alger. Et après, il y a toutes celles qui ont dénoncé en fait un mec, un Algérien de Londres, qui a appelé dans une vidéo à asperger d'acide les femmes qui revendiquent des droits dans les manifestations.
Non.
Très sympa. Du coup, ben, y a plein de femmes qui ont alerté en fait les Algériens et Algériennes de Londres, et l'homme a été identifié, localisé et arrêté. Donc, heureusement. Parce
le
que,
danger public.
Donc oui, donc c'est intéressant de voir les réactions vraiment hystériques, surtout que les femmes, enfin, elles sont en train de surtout manifester contre le système, contre Bouteflika qui maintenant est parti. Enfin, je veux dire, et quand même, il y a des mecs qui arrivent à focaliser sur leur existence et le fait qu'elles sont là et au lieu de se concentrer sur le mouvement général en fait qui crée justement une super unité et tout ça.
Ouais, mais elle pourrait prendre des postes éventuellement peut-être après ou prendre du pouvoir en fait.
Dommage.
Faudrait partager le pouvoir avec elle, c'est dommage.
Donc voilà, bravo à elle et franchement bravo. Bon courage parce que voilà, c'est le moment, faut pas lâcher le morceau.
On lâche rien.
C'est clair, bravo mille fois. C'est hyper impressionnant vu d'ici et hyper hyper inspirant. Et du coup, je pense que ça peut aussi la rubrique self care de cet épisode.
C'est la minute self care.
Elle va pouvoir servir aux féministes du monde entier en fait, hein, parce que je crois que où qu'on soit, on est confronté à des problématiques similaires. En tout cas, moi, ça fait quelque temps que dans les conversations que j'ai avec des copines féministes, il y a un sujet qui est constant, c'est le burn-out militant. Ouais. On est épuisé face à l'ampleur de nos tâches et face aux violences auxquelles on se confronte en permanence. On est épuisé aussi de gérer la colère immense qu'on ressent et parfois de plus en plus fort, plus on avance sur nos systématiques et plus on ressent de colère. Donc parfois on craque, mais on attend longtemps avant de craquer. Donc perte de sommeil, perte de mémoire, angoisse, symptômes dépressifs, perte d'appétit, addiction, ça peut se manifester de plein de façons différentes selon les personnes, mais le constat c'est le même pour toutes. Fatigue universelle, fatigue physique, fatigue émotionnelle. On ne sait plus par où commencer nos journées. Parce qu'en fait, militer, à la longue, c'est en fait comme être une athlète de haut niveau. On force beaucoup, on bosse énormément et avec passion. Et donc, on a besoin de temps de récupération, de préparation physique et mentale, peut-être même d'une équipe et de soutien. Donc, on doit s'autoriser à prendre des pauses. On doit s'autoriser à ne pas pouvoir tout affronter d'un coup. C'est pas une mission divine. De toute façon, on n'est pas Wonder Woman. On ne changera pas le monde toute seule. Donc, il faut prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est se permettre d'être plus endurante, finalement, ou plus endurant. Prendre soin de soi, c'est presque un acte politique. Et le self-care doit prendre sa place dans les milieux engagés si on veut durer et ne surtout pas prendre feu en plein vol. Donc une autre chose aussi qui devrait prendre sa place dans les milieux militants, c'est la bienveillance. Parce que les milieux militants, ils peuvent être violents selon les contextes, puisque souvent, quand on s'engage fort sur des sujets aussi sensibles que le sexisme, l'homophobie, le racisme, la transphobie, c'est qu'on est ou a été victime, souvent. Pas dans tous les cas, encore une fois. Mais du coup, dans ces sphères, on rencontre beaucoup de personnes qui ont des traumas, qui ont des histoires de violence qui marquent, des colères immenses. C'est donc indispensable de prendre cette donnée en compte. On ne peut pas faire comme si tout allait bien pour tout le monde et que les sujets étaient légers. C'est juste impossible. Donc, injecter de la bienveillance, c'est nécessaire, si ce n'est indispensable. Si le sujet vous intéresse ou si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à lire l'article du magazine Axel que je vous mets dans la description de l'épisode qui traite justement du burn-out militant avec plusieurs témoignages et plusieurs pistes pour s'en sortir.
Ouais, un magazine qui nous vient de Belgique et qu'on adore.
Et qui est très cool. Donc voilà, j'espère que ce conseil va vous servir. J'espère que ce 9e épisode vous a plu. C'était super dense. J'ai l'impression qu'il va durer longtemps. On remercie mille fois nos warriors du mois pour leur témoignage. Merci donc à nos battantes Brigitte, Khadija, M, les deux Maris et Lison. Bravo à vous et merci pour votre détermination et la force de vos engagements. Si vous voulez témoigner dans Yes, sachez qu'on lance régulièrement des appels à témoignages sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram @YesPodcast. Yes
avec 3 S.
Yes, merci. Cette fois, on va lancer 2 épisodes qui nous tiennent à cœur. Donc on lance les appels à témoignages. C'est des épisodes pour lesquels on va vous mettre à contribution. On les a nommés Warrior Junior et Warrior Senior. Donc on trépigne à l'idée de découvrir les victoires de vos grands-mères. On trépigne à l'idée de découvrir celles de vos filles et petites-filles. Donc n'hésitez pas à les enregistrer avec leur accord, bien sûr, indispensable, pour qu'elles participent à ces 2 épisodes qui s'annoncent absolument géniaux. On remercie l'équipe de la Podcast Factory ainsi que notre réalisatrice Amida qui fait son grand retour aujourd'hui.
Welcome back!
Yeah.
Vous pouvez aussi nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par Podcast Addict et toute bonne application de podcast.
Parce que les mauvaises, elles nous ont pas.
C'est ça. Vous pouvez aussi nous laisser des suggestions de sujets pour les prochains épisodes dans les commentaires iTunes. On te dit à la prochaine et d'ici là, n'oublie pas, tu as du courage, tu as de la détermination. on croit en toi, meuf, on croit en ton pouvoir, ouais, on croit dans tes convictions.
Yes.
Et si tu ne le savais pas déjà, alors on te le redit, meuf, t'es une warrior.
Ouais, une warrior.